C'est le directeur de l'Institut biblique belge depuis 2007, c'est ça? Marié avec Myriam, qui donc nous rend visite, avec Clara, qui est partie ici de l'autre côté, donc une petite fille. Si vous demandez qu'est-ce qui a façonné Marc-Étienne de cette façon un peu si particulière peut-être à vos yeux, en tout cas James, pour une part, il a une part dans ça, avec les autres profs aussi de l'Institut biblique, mais c'est un grand joie, un grand privilège, un grand plaisir d'être ensemble ce matin, de se mettre à l'écoute donc de la parole de Dieu par James, que Dieu a suscité pour faire ça ce matin. Et on voudrait prier encore peut-être courtement pour toi. Seigneur, sois avec James et avec nous. Seigneur, parle à nos cœurs, ouvre notre intelligence, notre esprit, dirige nos affections vers toi, que tout en nous vibre au son de ta voix. Rafraîchis-nous, nourris-nous, restaure-nous s'il te plaît. Change-nous. Au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup pour l'invitation à vous rejoindre ce matin. C'est un privilège d'être là, et ça d'autant plus qu'il y a ces liens qui nous unissent et que nous avons à cœur cette assemblée, y compris et notamment dans la prière. Je vous invite à avoir le psaume 45 sous les yeux, psaume que je lirai dans quelques instants, le psaume 45. Je ne sais pas si vous avez suivi l'événement, mais hier, donc il y a quelques heures, le fils de la princesse de Monaco, comment elle s'appelle, la princesse Caroline, voilà, je devais faire mes notes, la fils de la princesse Caroline de Monaco a épousé religieusement une certaine Béatrice Borromeo d'Italie. Si vous n'avez pas suivi cet événement, je parie que certains d'entre vous au moins ont bien suivi au moins quelques minutes d'un autre mariage royal qui a eu lieu il y a 4 ans, le mariage du prince William avec Kate Middleton. On nous informe en tout cas de ce que 2 milliards de personnes ont visionné cela. Et peut-être que vous êtes intéressé également, quelques mois plus tard, au mariage de Charlène au prince Albert II de Monaco. Le fait est que les mariages royaux continuent à avoir cette capacité à capter les imaginations et à intriguer les uns et à faire rêver les autres. Je ne crois pas que notre fille Clara soit une exception à cet égard. Je vous donnerai maintenant l'occasion de revivre quelques moments clés du mariage du prince William. Et juste après cela, je vous invite à visionner une vidéo du mariage remarquable qui a eu lieu en 2002 au Maroc. Le mariage de Mohamed VI. Le mariage de Mohamed VI avec Salma. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. 2 vidéos donc.
Fort de la matinée, salué par les cloches de l'abbaye, l'arrivée du prince William en rouge et de son frère et témoin, le prince Harry. Comme il se doit, la reine Elisabeth II, 85 ans, fut accueillie dans l'abbaye par les glorieuses trompettes de ses régiments. Quant à la mariée, que de stratagèmes auront été développés pour dissimuler jusqu'au bout sa splendide robe que l'on dit coûter la bagatelle de 30 000 euros.
Une silhouette enrubannée de tulle entrevue par la vitre d'une Rolls et l'Angleterre sans flamme. Catherine Elizabeth Middleton, petite fille de mineur de charbon, a rendez-vous à Westminster avec la royauté britannique. Dans une robe de tulle et de dentelle, dessinée par Sarah Burton et signée Alexander McQueen,
Catherine Elizabeth Middleton s'avance au bras de son père vers l'hôtel de l'abbaye de Westminster.
William n'attend plus qu'elle. Quelques mots échangés, quelques regards complices et un clin d'œil amusé. Le prince rassure sa princesse. 12h12, la cérémonie débute officiellement.
I, William Arthur Philip Louis, take thee Catherine Elizabeth, take thee Catherine Elizabeth, to my wedded wife, to my wedded wife.
Et c'est la voix tremblante que Catherine Elizabeth accepte William comme époux.
I, Catherine Elizabeth,
take thee William Arthur Philip Louis,
take thee William Arthur Philip Louis,
to my wedded husband,
to my wedded husband,
to Jesus Christ.
Comme si fusée qui illumine le ciel de Rabat, l'annonce officielle du mariage du roi du Maroc, Mohamed VI, 38 ans, avec Salma Benhamou, une jeune informaticienne de 24 ans, fait l'effet d'un feu d'artifice dans le cœur des Marocains. Cette union entre leur souverain et une roturière leur apparaît comme une véritable rupture avec le passé et la tradition de discrétion et de réserve, jusqu'ici en vigueur, à propos de la vie privée des souverains marocains. L'annonce publique de ce mariage, la divulgation même de son identité et la diffusion de photos de l'heureux élu que le roi rencontra en 1999, quelques mois avant le décès de son père Hassan II, sont, il est vrai, du jamais vu pour la dynastie Alaouite. Une monarchie qui règne sur le Maroc depuis le milieu du XVIIe siècle.
Voilà, cette occasion-là au Maroc est moins connue, mais quelle splendeur que les vêtements portés par le roi du Maroc et par son épouse. Quelle parure, quelle beauté, quelle merveille que les festivités qui se sont déroulées dans les environs du palais royal au Maroc. 1500 cavaliers, feux d'artifice grandioses, multiples orchestres. Les fêtes somptueuses là ont eu lieu sur 3 jours. Et la presse a commenté à l'époque, entre autres, les changements que ce mariage allait entraîner dans la vie de l'épouse. Une rupture nette avec son passé. Vous avez entendu ça, une rupture nette avec son passé, puisqu'elle vient d'un milieu modeste qu'elle a dû laisser de côté. Soumission à la volonté du roi. Surtout, selon un commentateur, surtout en ce qui concerne le fait de donner naissance à des enfants, et nous savons que cela s'est réalisé depuis, et honneur, honneur lié à sa nouvelle position d'épouse du roi. Une rupture nette avec le passé, une soumission à la volonté du souverain, un nouveau statut, on ne peut plus élever. Réfléchissez-y, quel changement radical de mode de vie pour l'épouse du roi du Maroc. Changement qu'elle connaît depuis plusieurs années maintenant. Le cas de figure pour Kate est semblable, des changements analogues, quoique probablement dans une moindre mesure. Mais vous avez entendu là encore, petite fille de Minogue Charbon, etc. Elle provient aussi d'une famille non aristocrate. Elle aussi a dû s'habituer à des changements radicaux et elle aussi semble bien s'adapter à son nouveau rôle en tant que maman de Georges et de Charlotte. Eh bien, je vous invite ce matin à assister à un mariage royal qui implique ces mêmes changements. Une épouse qui doit rompre avec son passé, qui doit se soumettre à la volonté du souverain, et qui doit s'habituer à l'idée de jouir de l'honneur qu'entraîne sa nouvelle position. Cependant, dans le mariage qui sera l'objet de notre intérêt, le personnage principal, le centre d'intérêt, n'est pas l'épouse, mais le roi lui-même. Et à la différence du mariage royal du Maroc et d'Outre-Manche, le mariage royal auquel nous allons assister ce matin nous concerne directement et de manière concrète. Vous êtes prévenus. Juste avant de lire le psaume, je voudrais préciser que je ne suis pas insensible aux souffrances que la mention même de mariage risque de provoquer chez certains. Vous pensez peut-être à la douleur qu'a entraîné une relation particulière pour telle ou telle personne qui est proche de vous ou vous-même. Vous pensez peut-être à la solitude, au désir d'être marié. Vous êtes chagriné peut-être, ou du moins je l'espère, par l'acharnement, n'est-ce pas, des gouvernements de par le monde à vouloir redéfinir le mariage dans un sens qui est inconcevable au plan biblique. Mais vous allez le constater, le mariage qui nous occupe ce matin va normalement nous réjouir et même nous consoler. C'est pourquoi je vais lire maintenant le psaume 45. Au chef de chœur sur les lys, poème des fils de Corée, chant d'amour. Mon cœur bouillonne de belles paroles, je dis, mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils d'hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Sens ton épée à ton côté, vaillant guerrier. Ton éclat et ta splendeur, oui ta splendeur, élance-toi, monte sur ton char pour la cause de la vérité, de l'humilité, de la justice. Que ta droite te montre des exploits formidables, tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi, elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Depuis les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes favorites. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Son vêtement est fait de broderies d'or. Elle est conduite au roi, vêtue de ses habits de couleur, et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les conduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes fils prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération. Aussi, les peuples te célébreront éternellement. Et à perpétuité. Bien, j'espère que ce mariage va nous enthousiasmer. Sinon, nous allons être en porte-à-faux avec l'esprit, avec le ton de cet événement. Vous avez remarqué à quel point le poète se donne la peine de signaler qu'il se passionne pour ce mariage. Verset 2, « Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Voilà le poète, le compositeur de ce chant d'amour, celui qui dédie ses belles paroles. À qui ? Au roi. Parfois, lorsque des auteurs dédient des ouvrages à telle ou telle personne, ils apportent des précisions, des explications, ou même des vœux en faveur de la personne en question. J'ai un exemple ici sous les yeux tiré d'un commentaire biblique. À Aude, Blandine, Clément, Fabien, en priant que cet ouvrage puisse les aider à progresser dans l'assimilation de la sagesse révélée. Mais de façon analogue, je pense que les deux derniers versets du psaume 45 apportent des précisions quant à la dédicace ou correspondent à un vœu qui accompagne ce chant de mariage. À la fin, verset 17, tes fils prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays, je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération, aussi les peuples te célébreront éternellement et à perpétuité. Et en ce qui concerne le reste du psaume, donc entre les deux premiers versets et les deux derniers versets, le poète nous montre d'abord le roi en gros plan dans les versets 3 à 10. Et puis, il nous montre en gros plan son épouse et l'entourage de son épouse dans les versets 11 à 16. 3 à 10, le roi. 11 à 16, son épouse. Mais avant de nous tourner vers ces deux personnages, il convient de dégager quelques caractéristiques du déroulement de ce mariage afin de pouvoir entrer au maximum dans l'esprit de cet événement. Enthousiasmant. Et c'est le verset 9 qui nous indique le lieu et l'ambiance. Le verset 9. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Depuis les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Nous voici donc dans des palais d'ivoire. Comment réagissez-vous au parfum délicieux et à la musique d'un bon nombre d'instruments à cordes, à la musique joyeuse qui convient à ce mariage exceptionnel? L'ambiance se rapproche donc de celle du mariage royal du Maroc de 2002. Et puis les versets 14 à 16 nous permettent d'être les spectateurs de l'arrivée de l'épouse et de son entourage auprès du roi. La procession, si vous voulez. Verset 14. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Son vêtement est fait de broderies d'or. Elle est conduite au roi, vêtue de ses habits de couleur. Et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On est conduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Voilà le moment clé. Le sourire des unes et des autres est frappant, n'est-ce pas? Et on est impressionné par les couleurs. Quelle splendeur que les vêtements portés par l'épouse. Quelle parure, quelle beauté à vous couper le souffle. Mais qui est-elle? Et qui est le roi? On va passer donc aux deux personnages principaux du mariage. D'abord au roi, qui est décrit dans le verset 3 et suivant. Et ces versets constituent un véritable kaléidoscope de qualité et de vertu. Observons la beauté de son apparence. Verset 3, il nous est dit qu'il est le plus beau des êtres humains. Quel époux! Or, cette description évoque le premier roi d'Israël, Saül. Aucun des Israélites n'était plus beau que lui. Vous vous rappelez, il les dépassait tous d'une tête. Combien sa royauté semblait prometteuse au début, mais ce qui lui manquait, c'était l'obéissance à Dieu. Et il a fini par être rejeté en tant que roi. En revanche, en ce qui concerne la beauté de ce roi décrit dans le psaume 45, le poète ne nous permet pas de la concevoir uniquement sous l'angle physique. Dans le verset 3, on a même l'impression que l'aspect physique est relativement peu important. Il développe cette idée de la beauté du roi en évoquant ses lèvres. Et là, sa façon de faire permet de comprendre que c'est l'attrait moral qui prime, et en particulier la grâce qui sort de la bouche de ce roi. Bien plus, en vertu de ces paroles de grâce, fin du verset 3, Dieu a béni ce roi pour toujours. Parmi les candidats qui sont toujours en lice, on peut écarter Saül. Mais avec un tel langage de bénédiction éternelle, on pense aisément à David et aux promesses que Dieu lui a faites en 2 Samuel 7. Je cite, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Sa beauté, ses paroles, poursuivons avec la liste des qualités du roi, versets 4 à 6, ses prouesses militaires, jetez un coup d'œil sur le verset 6 pour les trouver. Résumé, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Ce verset nous rappelle les victoires que Dieu a données à David sur les Philistins et sur les nations voisines, partout où il allait, selon le texte de Samuel 8, partout où il allait. Quel guerrier redoutable. Et pourtant, sa splendeur réside en même temps dans ses vertus morales encore. Voici quelqu'un qui lutte, insiste le verset 5, non pas pour des conquêtes militaires en tant que telles, mais pour la vérité, pour l'humilité, pour la justice. Est-ce que les grands dirigeants de notre monde aujourd'hui sont véritablement motivés par le souci de la vérité, de l'humilité, de la justice? Parfois, sans doute. Mais la politique et la corruption vont aussi souvent de pair. La politique et la manipulation des médias. La politique et la recherche du pouvoir ou du succès, apparemment qu'on feint en soi. Les grands hommes politiques de notre monde aujourd'hui, combien d'entre eux sont connus pour la vérité, pour la transparence dans leurs propos, pour la fiabilité de leurs promesses? Les guerres qui ont cours dans notre monde aujourd'hui, dans combien de cas les régimes et les rebelles combattent-ils en faveur de l'humilité? Dans combien de cas l'étiquette guerre juste semble-t-elle adéquate? Menons des efforts pour le saisir. Ce roi a à cœur de régner, fin du verset 7, en établissant la droiture parmi son peuple. Il gouverne son peuple avec justice. Effectivement, verset 8, il aime la justice et déteste la méchanceté. Ces versets évoquent le résumé de la vie de David qui nous est fourni dans 1 roi 3. Je cite, « Il marchait en présence de Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers lui. » Mais le roi du psaume 45, est-il véritablement David? Bien que certains indices aillent dans ce sens, je ne crois pas que ce soit possible. Pour plusieurs raisons. Première raison, à ma connaissance, David ne possédait pas de palais d'ivoire. Deuxième raison, vers la fin du psaume, dans le verset 17, le poète semble indiquer que le roi appartient à la lignée de David, qu'il est l'un des fils de David. Troisième raison, l'accent qui est mis sur les vertus morales du roi dans le psaume, comment les concevoir en rapport avec le roi David? Il est vrai que David est souvent présenté comme étant l'aune à laquelle mesuraient d'autres rois, mais on aurait du mal à fermer les yeux, n'est-ce pas, sur les péchés graves de David, le meurtre, l'adultère, péché de David auquel cette partie du livre des psaumes attire en fait notre attention. Qui est alors ce roi? Saül n'est plus en lice, David n'est plus en lice. Peut-être que nous sommes tentés de croire que le psalmiste ne désignait aucun roi particulier dans l'histoire d'Israël. Mais un tel présupposé comporte des difficultés. N'avons-nous pas vu la dédicace à la fin? N'avons-nous pas noté des détails en lien avec la cérémonie de mariage? N'y a-t-il pas la perspective au verset 17 de progéniture comme fruit de cette union? N'y a-t-il pas des détails qui sont enracinés dans l'histoire, dans le texte? L'or en provenance d'Ophir et la fille de Tyr. Qui est alors ce roi? Non pas Saül, non pas David, Salomon? Peut-être. On pense à sa splendeur, n'est-ce pas? C'était un fils de David. Il avait bel et bien un trône d'ivoire. Il était connu pour sa justice. Vous vous rappelez que Salomon avait demandé à Dieu la sagesse pour régner et qu'il a rendu la justice dans cet épisode où deux femmes se sont disputées un bébé. Et en plus, Salomon a épousé une princesse étrangère, ce qui semble cadrer avec le verset 10. Il se peut bien que le psaume 45 se rapporte à Salomon, dans le contexte historique original. Et pourtant, simplement en rester là ne suffit pas. Car si le psalmiste a rédigé ce poème vers le début du règne de Salomon, force est de constater qu'il a exposé une sorte d'idéal de royauté en rapport avec Salomon. Et lorsqu'on tient compte de la vie entière de Salomon, il faut reconnaître que Salomon a fini par démentir cet idéal. En effet, au cours de sa vieillesse, ses 700 femmes étrangères ont incliné son cœur vers d'autres dieux, à modèle de vertu, au final, pas beaucoup plus que le prince Harry ou le prince Albert II de Monaco. Le poète a exprimé ses désirs par rapport à Salomon, mais ses désirs ne se sont pas réalisés. Et on pourrait se dire, mais au bout du compte, il n'y a personne, semble-t-il, qui satisfasse à tous les critères qui sont mis en lumière par le poète. Personne qui soit finalement à la hauteur de cette royauté parfaite en splendeur et en justice. Le poème est comme un fleuve qui rompt ses digues. Le langage du poète se révèle exagéré, déborde le cadre de son sujet, pourrait-on penser. Dépasse tout ce qu'on sait des meilleurs rois qui ont régné sur le trône de David. Les habits sont trop grands, en quelque sorte, pour les rois israélites. Et puis, de toute façon, le peuple a été emmené en exil en Babylonie et le trône de David a été privé de titulaire. Ce portrait d'un roi qui sort de l'ordinaire, c'est beau, mais... Puis plusieurs siècles plus tard, un roi provenant de la lignée de David a surgi. Il y a 2000 ans environ. Je ne dis pas que tout le monde est reconnu comme étant un roi splendide, loin de là. En l'observant, au premier abord, on dirait que sa vie est assez peu remarquable. Sauf pour le fait qu'il est né dans une mangeoire. De prime abord, il n'y a rien de frappant dans son apparence. Il ressemble à n'importe quel être humain ordinaire. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, il se singularise quand même par sa beauté de tout être humain. Car il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Et l'expression de sa réalité même. Et lorsqu'on s'arrête pour se mettre à l'écoute de ses propos, on entend, mais oui, la vérité. On entend l'autorité. On entend, mais oui, la grâce. Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme, dit-on le concernant. Est-il un conquérant militaire? Dans un sens, on répondrait non. Mais en réalité, le dernier livre de la Bible le présente comme un cavalier, comme le guerrier suprême, celui qui porte le nom de roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous y apprenons qu'il est puissant pour frapper les nations et les faire paître avec un sceptre de fer. Et pourtant, sa splendeur réside dans ses vertus morales. Nous lisons qu'il a pour nom fidèle et vrai, et qu'il juge et fait la guerre avec justice. Nous avons affaire à celui qui triomphe des principautés et des pouvoirs, les livrant publiquement en spectacle. Ce roi, il lutte pour la cause de la vérité et de la justice. Et l'humilité également? Mais oui, nous sommes en présence de celui qui n'a pas considéré comme une proie à arracher de jouir de la gloire de son Père dans les cieux, Mais il est entré dans ce monde déchu. Il a assumé l'humanité. Il est devenu esclave. Il s'humilie en subissant la mort sur une croix, en portant la punition qu'encourent les fautes d'une multitude de rebelles. Et paradoxalement, c'est là qu'il remporte la victoire sur les puissances des ténèbres. Voici donc à la fois celui qui est le vainqueur de tout ce qui s'oppose à Dieu et celui qui est doux et humble de cœur. En fin de compte, à la lumière de la Bible tout entière, au sens le plus profond, le plus fort, le plus total, les indications dans le psaume nous poussent à pointer du doigt le seul roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Christ de Dieu. C'est lui le roi qui est parfait en splendeur et en justice. Reportez-vous plus tard à l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Si vous avez des doutes à ce propos, vous allez découvrir que ce psaume est cité en rapport avec le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui est maintenant à la droite de Dieu, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, celui qui a tout pouvoir, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce roi qui correspond au portrait du psaume 45 ne peut nous laisser indifférents. Parce que nous comprenons qu'il existe là un contraste majeur par rapport au roi du Maroc et par rapport au prince William. Car nous ne sommes pas obligés de nous intéresser à la vie de ces personnages royaux. Si vous avez fermé les yeux durant les vidéos, peu importe. Mais nous sommes dans l'obligation d'avoir affaire à Jésus-Christ. N'oublions pas que notre calendrier est défini par rapport à lui, 2015 après Jésus-Christ. Mais ce qui est beaucoup plus important que cela, c'est le fait que le roi Jésus reviendra en tant que juge. Et à ce moment-là, l'accomplissement du psaume 45 se réalisera complètement. Et ce jour-là, les problèmes de ce monde seront réglés dans la justice. Ne brûlons-nous pas d'envie de voir ce jour. On ne peut pas l'esquiver dans nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, les valeurs chrétiennes sont en train de se désagréger à une vitesse ahurissante. Ces jours-ci, ça peut avoir lieu, je pense, à un film que Myriam et moi, nous avons visionné. Ça peut même avoir lieu qu'un film est produit dont le succès dépend du mensonge, dépend de l'adultère, dépend de l'arrogance. Que l'immoralité sexuelle doit être considérée comme une vertu. Maintenant, jetez un œil à nouveau au verset 5 du psaume 45. Le roi établira la vérité, l'humilité, la justice. Les mensonges, l'arrogance, l'immoralité seront à tout jamais bannis. Et cela veut dire que nous devons toutes et tous être soumis au roi. Sinon, nous allons être bannis avec le reste des ordures qui doivent être enlevées. En fait, même pour nous qui sommes soumis au roi, il subsiste des ordures en grande quantité qui doivent être enlevées. Et on pourrait même se poser la question de savoir comment il est possible que ce roi ait une épouse. Mais c'est vrai, je ne peux pas vous montrer une vidéo. Mais vous qui êtes soumis au roi, n'êtes-vous pas participant à cette occasion, à ce mariage? Permettez-moi d'expliciter l'identité de l'épouse en lisant quelques versets d'Éphésiens 5. Vous pouvez simplement écouter. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Je saute quelques versets. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je vous avais bien dit que le mariage dans le psaume 45 nous concernait. Nous qui faisons partie du peuple de Dieu, de l'Église, de l'épouse du Christ. Ce qui nous amène au défi des versets 11 et suivants dans le psaume 45. La partie du psaume où le poète s'adresse à l'épouse du roi et insiste sur un changement de vie radical. Je vous invite à lire à partir du verset 11. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Vous voyez là que l'épouse doit rompre avec son passé. Oublie ton peuple et ta famille, nous dit le texte. L'épouse doit se soumettre à la volonté du souverain. Verset 12. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Et elle doit s'habituer à l'idée de jouir de l'honneur qu'entraîne son nouveau statut. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. C'est là le cas de figure classique pour un mariage royal. Que ce soit au Maroc, à Monaco, en Grande-Bretagne ou au sein de l'Église. Méditons ces trois points en guise de conclusion de notre examen de ce psaume. D'abord, une rupture avec le passé. Oui, comme pour l'épouse du roi du Maroc, mais à un niveau plus profond. Nous laissons de côté tout ce qui risque d'entraver notre dévouement total au Christ. À un moment donné, quelqu'un a dit à Jésus, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus a répondu, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Nous, l'Église du Christ, rompons nettement avec le passé, faisant mourir les vieux désirs qui ne plaisent pas à notre Seigneur. Quel qu'en soit le prix, nous n'avons pas le choix. Ce mariage royal entraîne un changement de mode de vie radical pour l'épouse, touchant les pensées, les paroles, les actions. En effet, deuxième point, nous devons nous soumettre entièrement à la volonté du roi. Mais rappelons-nous tout de suite à qui nous avons affaire. Pas un personnage marocain, monégasque ou britannique. Notre roi est doux et humble de cœur. Et lorsque nous prenons sur nous-mêmes son joug, il nous donne du repos. N'oublions pas que notre roi est le vaillant guerrier qui nous a rachetés de la mort et de l'enfer, qui s'est livré lui-même pour nous afin de nous consacrer en nous purifiant par le bain d'eau et de la parole pour nous faire paraître devant lui, nous, l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Oui, un jour, les ordures en nous seront entièrement enlevées. Et dans le psaume 45, le poète précise que le roi porte ses désirs sur notre beauté. Est-ce que nous méritons cela? Absolument pas. Mais tel est le caractère de notre époux. Ne sommes-nous pas motivés à nous soumettre à la volonté de ce roi-là? Combien de personnes aujourd'hui brûlent d'envie de connaître ne serait-ce qu'une relation stable, intime,
significative avec quelqu'un de fidèle. Mais c'est ce que nous avons en Christ. Et quant au troisième point, quant à l'idée de jouir de l'honneur qu'entraîne notre nouvelle position, c'est déjà une réalité dans le monde secret, spirituel. Et nous lisons dans la première lettre de Pierre qu'un jour, notre foi se trouvera le sujet de louange, de gloire et d'honneur. L'Apocalypse nous dit qu'un jour, dans un avenir proche, nous recevons la gloire et l'honneur des nations. Certes, actuellement, aux yeux du monde, nous formons une minorité un peu minable, un peu méprisable, mais il suffit d'attendre le jour où nous assisterons au dîner de notre mariage, le jour de la consommation de notre mariage, le moment où le psaume 45 s'accomplira pleinement dans toute sa magnificence. Je vais lire dans l'Apocalypse 19. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Quel privilège, quel honneur justement, que d'avoir reçu une invitation à ce banquet-là. Ce n'est pas une mince affaire. Mes frères et sœurs, ce mariage remarquable ne pousse-t-il pas à vouloir glorifier notre Seigneur? Imaginez le cas de figure, l'épouse du roi du Maroc se réveille demain matin et se tourne vers Mohamed VI. Et elle tient ses propos. « Chérie, tu te souviens, lorsque nous étions en train de nous fréquenter, je travaille dans l'informatique. Ça te gênerait si je recommençais à travailler dans ce domaine-là, à temps plein, je veux dire. » Imaginez le cas de figure, la duchesse de Cambridge se réveille demain matin et se tourne vers le prince William. Elle tient ses propos. « Chérie, tu te souviens, lorsque nous étions en train de nous fréquenter, je travaillais pour la boîte de mes parents. La vente par correspondance, notre cher Georges, notre chère Charlotte, ils sont encore petits, mais ne t'inquiète pas, je voudrais encore les voir une fois tous les mois. Mais en semaine et parfois le week-end, je voudrais vraiment me consacrer à la société de mes parents. Et donc, j'aurais vraiment envie de rechercher, de regagner mon ancien travail à temps plein. Et à cette fin, il serait juste plus facile pour moi si j'habitais seul avec mes parents en semaine. Vous voyez? Imaginez ce cas de figure. Un croyant se dit, mais je sais qu'on est censé vivre différemment lorsqu'on est croyant, mais ouais, franchement, hein, le bavardage me procure beaucoup de plaisir. Je sais qu'on devrait être honnête dans la déclaration des revenus, mais chaque chose en son temps, et franchement, j'ai besoin de cet argent. Il faut agrandir la maison. Et je sais que je ne devrais pas être dans cette relation, mais rien ne presse, et pour le moment, ça me plaît. Non! Notre mariage royal entraîne un engagement. Il entraîne des changements. Il entraîne un transfert de loyauté. Un prof de théologie m'a confié il y a quelques années qu'il était tenté de commettre un acte d'immoralité sexuelle. Et puis, il est revenu à la raison en prêchant à lui-même, « Je suis marié !» Alors, cette semaine, la semaine prochaine, dans les domaines particuliers de nos luttes contre le péché, pensons à la rupture nette avec le passé qu'entraîne notre mariage. Face à la tentation, à la
rivalité, à la tentation de dénigrer telle ou telle personne, pensons à la soumission au roi qu'entraîne notre mariage. Face aux moments difficiles, aux moments de découragement et de déception, face à la tentation de nous replier sur nous-mêmes, face à la maladie et à la fatigue, pensons à l'honneur, au statut privilégié qu'entraîne notre mariage. Face à la solitude, la déception dans telle ou telle relation humaine, laissons-nous consoler, réconforter par cette relation avec notre époux merveilleux. Face aux dangers que présente la publicité mensongère ou des sites web peu appropriés sur Internet, pensons à notre mariage. Face aux occasions de parler de Jésus aux gens de l'extérieur lorsque nous avons peur de le faire, nous souviendrons-nous de ce que notre roi est parfait en splendeur et en justice. Pensons-nous à la peine qu'il s'est donnée en vue de nous rendre beaux, sans tache ni ride. Face à la tentation de nourrir un sentiment d'amertume vis-à-vis de quelqu'un, ou un sentiment de jalousie, pensons à notre mariage. Est-ce que nous nous encourageons les uns les autres dans notre soumission au roi, car le peuple de Dieu est collectivement l'épouse du roi? Mon épouse Myriam et moi, nous sommes reconnaissants à la personne qui a réalisé un DVD de notre mariage. Et cela nous arrive de temps à autre de regarder ce DVD ensemble, de passer en revue ce qui s'est passé ce jour-là, et nous rappeler notre engagement l'un envers l'autre. Ce psaume pourrait jouer un tel rôle pour l'Église et pour chacun de nous croyants individuellement. Nous lisons, relisons le psaume et nous nous rendons compte de ce que ce mariage est exceptionnel. Le cœur du poète brûle au-dedans de lui et peut-être le nôtre aussi. Nous nous rendons compte de ce que ce mariage dépasse et de loin tout mariage humain dans ce monde. Nous contemplons le roi qui est parfait en splendeur et en justice. Nous contemplons l'épouse et nous nous rendons compte de ce que l'épouse, c'est nous. Et la conviction grandit en nous en relisant le psaume. Rupture avec le passé. Mais oui, bien sûr. Soumission à la volonté du roi. Mais oui, bien sûr. Honneur lié à notre nouveau statut. Mais oui, bien sûr. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Et viens, Seigneur Jésus.